Vous êtes avec SBS French. Les principaux titres de l'actualité de ce mardi 1er juin 2021. 9 nouveaux cas de Covid recensés dans l'état du Victoria qui en est à son 5e jour de confinement. Les États-Unis à nouveau au cœur du scandale, ils sont accusés d'avoir écouté certains dirigeants européens avec la complicité du Danemark. Le président français Emmanuel Macron dénonce un comportement inacceptable. Et il y a quelques jours, un Chinois aveugle a réussi l'exploit de gravir le toit du monde, le mont Everest. On reviendra sur cette incroyable histoire en fin de journal. Confinement jour 5 dans l'état du Victoria où les autorités viennent d'annoncer avoir détecté donc 9 nouveaux cas de transmission communautaire du Covid, ce qui porte le nombre total de cas actifs liés à ce nouveau foyer épidémique à 54. Alors ce confinement, est-ce qu'il sera prolongé? C'est trop tôt pour le dire, d'après James Merlino, le premier ministre par intérim du Victoria. Brett Sutton, pour sa part, le médecin-chef de l'État, n'a lui pas exclu le retour de ce qu'il appelle l'anneau d'acier, c'est-à-dire des restrictions qui ne s'appliqueraient qu'à l'agglomération de Melbourne. Et parmi ces 54 cas actifs de Covid dans le Victoria, 4 sont liés à des maisons de retraite, 2 employés d'EHPAD, un résident et le fils d'un employé, a précisé Richard Colbeck, le ministre chargé des retraités. De son côté, le gouvernement Morrison étudie la possibilité de rendre obligatoire la vaccination contre le Covid pour tous les employés d'EHPAD, une mesure qui jusqu'à présent n'avait pas été prise en raison d'un manque d'information, d'après le même Richard Colbeck. Il s'en est expliqué sur le Channel 7.
It's a significant logistical exercise, and the reason it wasn't made mandatory is because we didn't understand whether the vaccines would prevent transmission or not. We understand more about that now. We were always going to reconsider the advice as we learnt more about the vaccine, how it worked. But we know that it doesn't prevent you from catching COVID-19. We know that for a fact. We know that it doesn't prevent transmission.
Encore un mot sur le coronavirus pour parler de la satisfaction du directeur général de l'OMS, Tedros Ghebreyesus. Ce dernier s'est félicité de l'adoption par plusieurs États membres de résolutions visant à la signature d'un traité international sur les pandémies. Alors que la gestion du Covid a pu beaucoup varier d'un pays à l'autre, certains adoptant la stratégie zéro Covid, d'autres décidant de vivre avec, le docteur Tedros estime qu'un engagement générationnel allant au-delà des cycles politiques et financiers permettra à l'avenir de répondre plus efficacement à de futures pandémies.
At present, pathogens have greater power than WHO. They are emerging more frequently in a planet out of balance. The defining characteristic of the pandemic is the lack of sharing of data, information, pathogens, technologies, and resources. These are the challenges we are facing, we have been facing since the pandemic started and even before.
Et précisons à ce sujet que les 194 États membres de l'OMS se réuniront au mois de novembre pour entamer les négociations liées à la signature de ce traité. Un bilan contrasté, c'est ainsi qu'Angus Campbell, le chef de l'armée australienne, a décrit la présence en Afghanistan des troupes australiennes devant un comité sénatorial. Des troupes qui doivent définitivement se retirer de ce pays plus tard cette année après y avoir été engagées pendant près de 20 ans aux côtés des États-Unis. Alors dans le détail, Angus Campbell estime que grâce à cette intervention au cours de laquelle 41 soldats australiens ont perdu la vie, des attaques terroristes ont pu être évitées. Et cette présence militaire, elle a aussi favorisé le retour à une certaine sécurité, une certaine stabilité en Afghanistan. Mais l'armée australienne en Afghanistan, c'est aussi des accusations de crimes de guerre visant des membres des SAS, les troupes d'élite de l'armée australienne. D'après un rapport paru il y a quelques mois, au moins 25 civils ont été assassinés par des soldats australiens, parmi lesquels des enfants. Économie maintenant, dans le cadre de la loi qui vise à rééquilibrer les relations entre les médias d'un côté et les GAFA de l'autre, un nouvel accord vient d'être trouvé. Le groupe Nine Entertainment, qui édite entre autres le Sydney Morning Herald ou The Edge à Melbourne, vient de signer des accords avec Google et Facebook sur l'utilisation de ses contenus, ses articles, ses vidéos, etc. sur ces deux plateformes. Alors le montant précis de cet accord n'a pas été dévoilé, mais on estime qu'il porte sur plusieurs centaines de millions de dollars qui seront versés donc au groupe Nine chaque année par les deux géants du net, et ce afin de soutenir ses activités journalistiques. Des accords du même type ont déjà été signés ces derniers mois avec le groupe News Corp Australia ainsi qu'avec le groupe Seven West Media. Les États-Unis, de nouveau accusés d'avoir écouté plusieurs dirigeants européens, et ce, avec la complicité du Danemark. C'est la télévision publique danoise qui l'a révélé. Parmi les victimes de ces écoutes, il y aurait l'Allemagne et la France notamment. Des révélations qui ont fait réagir Emmanuel Macron et Angela Merkel lors d'une conférence de presse conjointe qui se tenait à Berlin. Mais les deux dirigeants se sont exprimés en revanche en des termes très différents. Analyse depuis Berlin de Pascal Thibault pour RFI.
Emmanuel Macron et Angela Merkel attendent des explications de leurs alliés américains et danois, mais les formulations des deux responsables diffèrent entre un président français très résolu et offensif et une chancelière allemande cherchant visiblement à ne pas jeter de l'huile sur le feu. Emmanuel Macron.
Ce n'est pas acceptable entre alliés, encore moins entre alliés et partenaires européens. Nous avons demandé à ce que nos partenaires danois et américains apportent toutes les informations sur ces révélations et sur ces faits passés, et surtout apporter toute la clarté sur les pratiques présentes.
Angela Merkel, comme lors des révélations dans le passé sur les écoutes de la NSA, son propre portable était concerné, fait à nouveau profil bas, soucieuse de ne pas heurter l'allié américain. Pourtant, les révélations de différents médias européens ont donné des détails plus concrets sur les victimes de ces pratiques en Allemagne. À nouveau, la chancelière était concernée, ainsi que le candidat social-démocrate à la chancellerie en 2013, Peer Steinbrück, et l'actuel président de la République, Steinmeier. Angela Merkel s'est contentée de préciser qu'elle avait été rassurée par les déclarations de la ministre de la Défense danoise, qui a estimé que l'espionnage systématique par des alliés est inacceptable.
C'est une bonne base, non seulement pour clarifier les faits, mais aussi pour établir des relations de confiance.
Après les révélations sur des écoutes similaires, en 2013, l'Allemagne avait lancé des discussions pour éviter à l'avenir de telles pratiques entre pays européens. Des informations 2 ans plus tard sur les grandes oreilles des services allemands avaient mis fin aux négociations. Pascal Thibault, Berlin RFI.
États-Unis, une cérémonie hier, une cérémonie interconfessionnelle s'est tenue dans la ville de Tulsa, dans l'état de l'Oklahoma, où il y a tout juste 100 ans s'est déroulé l'un des massacres à caractère raciste les plus sanglants de l'histoire de ce pays. Une église en 1921 située dans un quartier noir, Greenwood, avait été incendiée par une milice raciste, un incendie dans lequel au moins 300 personnes avaient péri. Cette église, depuis, elle a été reconstruite. C'est d'ailleurs devant celle-ci qu'a eu lieu ce rassemblement. Et le révérend de cette église, William Barber, a dit à la foule que ce massacre ne serait jamais oublié.
The blood can't rest. You can't cover over the blood by trying to make a tourist event out of a tragedy. You can't cover over the blood and talk about reconciliation when there's been no conciliation. So when we see this wall is not for us to remember the fights they fought. The wall is to give us the courage to fight the fights we still have to fight to deal with economic justice, to deal with voter suppression.
Des bruits de bottes venus de Russie, dont l'armée vient d'annoncer la construction de 20 nouveaux corps d'armée d'ici la fin de l'année pour répondre, d'après cette dernière, à la menace grandissante que représenterait l'OTAN. Le ministre de la Défense, Sergueï Shoigu, estime que de plus en plus de bombardiers américains volent à proximité immédiate des frontières russes, tandis que des exercices militaires menés par d'autres nations coalisées se multiplient.
The actions of our Western colleagues destroy the international security system and force us to take the relevant countermeasures. We are constantly improving the operating strength of our forces, and by the year's end, we will form another 20 units and formations in the Western Military District.
L'OTAN, pour sa part, organisation du traité de l'Atlantique Nord, a décidé de restreindre l'accès de son quartier général aux officiels biélorusses, une décision qui fait suite au détournement par Minsk d'un vol commercial pour arrêter un journaliste qui se trouvait à bord et qui est opposé au régime. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a précisé que 5 officiels biélorusses étaient concernés.
We are constantly assessing security measures here at NATO and we have decided to restrict the access of Belarusian personnel to the NATO headquarters based on our assessment of security measures at the headquarters.
La Chine vient d'annoncer qu'elle autorisait les familles à avoir jusqu'à 3 enfants. Une annonce qui intervient quelques jours après la publication du dernier recensement décennal, recensement qui révèle une baisse de la natalité dans l'Empire du Milieu. Et ce alors pourtant qu'il y a 5 ans, la Chine avait officiellement mis fin à la politique de l'enfant unique permettant aux couples d'avoir jusqu'à 2 enfants. Mais visiblement, cette mesure n'a pas permis d'enrayer le vieillissement de la population. Élément d'explication avec le sinologue Jean-Philippe Béja.
Dans les villes, par exemple, la plupart des jeunes ne veulent pas avoir plus d'un enfant, étant donné le coût extraordinaire de l'éducation d'un enfant. Et le logement, qui devient bien sûr de plus en plus exigu comme partout. D'autre part, rappelons-nous aussi, c'est peut-être un élément psychologique auquel personne n'avait pensé, c'est que on a affaire à une génération d'enfants uniques, en tout cas dans les villes, et que, au fond, ils n'ont pas tellement envie d'avoir plusieurs enfants, et ils n'ont pas cette habitude. Donc, il y a plusieurs raisons qui expliquent la non-reprise de la natalité et le fait que la Chine est un pays de moins en moins rural, hein, puisqu'on a vu que le dernier recensement donnait 60% d'urbains. Alors, est-ce que le Politburo va faire des primes pour le troisième enfant? Pas partout, en tout cas sûrement pas au Xinjiang ou au Tibet, puisqu'on a des politiques différentes dans les zones de minorité nationale. D'autre part, on préférerait avoir évidemment des citadins qui auront un bon niveau, ce qu'on appelle Suzhuha, une bonne qualité dans les villes, et on n'est pas très chaud pour avoir une très très forte population dans les campagnes qu'on aura du mal à éduquer.
Et c'était donc le spécialiste de la Chine, Jean-Philippe Béja, interrogé par nos confrères de Radio France Internationale. Un nouvel exploit vient d'être accompli sur le mont Everest. Le chinois Zhang Hu est devenu il y a quelques jours le premier aveugle asiatique à atteindre le toit du monde qui, pour rappel, culmine à 8840 mètres. Depuis Pékin, le récit du correspondant permanent de RFI, Stéphane Lagarde.
Après l'Américain Eric Wenner-Meyer en 2001 et l'Autrichien Andy Holzer il y a 4 ans, Zhang Rong est le troisième grimpeur à réussir cet incroyable exploit, atteindre le toit du monde, les yeux fermés. Une montagne de difficultés, mais une motivation à toute épreuve.
Il y a les glaciers et les murs de glace qui sont particulièrement difficiles pour les malvoyants et tout un tas d'autres dangers. À chaque pas, il faut être prudent et j'avais besoin de mes guides pour avancer. Cela n'a pas empêché que je perde de nombreuses fois l'équilibre parce que je ne voyais pas. Je suis tombé un nombre incalculable de fois.
Aidé par 3 Sherpas népalais et un ami guide, Zhang Rong arrive à Katmandou vacciné. Début avril, 14 jours de quarantaine, puis des semaines d'entraînement au camp de base, avant de parvenir au sommet le 24 mai dernier. Atteint d'un glaucome, Zhang Rong a perdu la vue à 21 ans. Comme la plupart des aveugles en Chine, il est devenu masseur. Il a aujourd'hui 2 messages à faire passer.
Face à l'immensité de la nature, face à la montagne, on se sent vraiment tout petit. C'est aussi une aventure intérieure qui nous oblige à respecter davantage l'environnement. Et puis, mon autre message, c'est de dire que, quel que soit votre handicap, vous pouvez vous dépasser et faire de grandes choses.
Et notamment se lancer dans le défi des 7 plus hauts sommets du monde et créer une fondation pour aider les Sherpas blessés lors des ascensions. Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Et pour clore ce bulletin, on jette maintenant un œil à la météo de ce mardi en Australie. 19 degrés à Perth, 20 à Adélaïde, 17 à Melbourne, 20 degrés à Sydney, 23 à Brisbane, 27 à Cairns et jusqu'à 31 degrés aujourd'hui à Darwin.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.